10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Bonjour Adrien Quatennens.
Bonjour.
La fièvre monte, celle du jeudi noir qui s'annonce le 5 décembre avec les blocages et les grèves contre la réforme des retraites. Sur le papier, la mobilisation prend l'apparence d'une grève générale, préalable à toute période de bouleversement, hein, si on se fie à la recette dans les grimoires révolutionnaires. Mais pour votre mouvement, la France insoumise qui veut défendre les gens, comme vous dites, avec une gauche radicale, est-ce que jeudi matin vous mènera en fait vers le grand soir? La question se pose, car depuis 2017, la France insoumise n'a pas réussi à lever un mouvement social et les gilets jaunes ne correspondent pas vraiment à votre électorat. Vous nous direz si les insoumis ont un contre-projet ou si seule la révolution est au programme. Adrien Quatennens, vous êtes de la génération mutante de la France insoumise et le public vous découvre depuis 2017, fibre républicaine, ultra laïque, secret. Vous avez été nommé coordinateur du mouvement par Jean-Luc Mélenchon. Lui garde un œil sur ses troupes, l'autre sur la présidentielle. Et votre mission, c'est faire sortir aussi votre mouvement de la culture de la formule, voire du groupuscule, et surtout de convaincre les Français que vous pouvez exercer le pouvoir un jour. Pour vous interroger, Cécile Cornudet, des Échos, Damien Fleurot de CNews qui vous posera tout à l'heure la première question. Mais avant cela, à la veille de l'hommage aux 13 militaires tués au Mali, on écoute, on regarde.
Le contexte que nous sommes en train de vivre au Sahel me conduit aujourd'hui à regarder toutes les options stratégiques. Et les prochaines semaines seront consacrées à un travail en profondeur que j'ai demandé au gouvernement et à nos armées pour regarder les modalités de notre intervention. Et je le dis, toutes les options sont aujourd'hui ouvertes.
Adrien Quatennens. Demain, vous participerez à l'hommage en mémoire à ces 13 soldats morts au Mali.
Évidemment, évidemment. Et c'est le moment de le faire avec toute la nation rassemblée, le plus de monde possible, je l'espère, aux Invalides. D'abord pour entourer de notre affection ces 13 familles endeuillées, puisque la France a perdu 13 des siens au Mali, ce qui porte à 44 le nombre de Français décédés là-bas. Et donc la première des choses à faire, effectivement, c'est de nous serrer les coudes et de nous retrouver pour les entourer
dans l'unité nationale.
De notre affection, évidemment, de toute évidence. Et j'observe d'ailleurs que des enfants monteront à Paris des régions d'origine de ces militaires. Et je crois que c'est une image extrêmement positive. C'est d'abord la première chose qu'il faut faire. Et avoir aussi un salut pour toutes celles et ceux qui s'engagent, leurs frères et sœurs d'armes, et qui s'engagent parfois jusqu'au péril de leur vie pour obéir à des décisions politiques. Le Premier ministre lui-même l'a rappelé lors de la dernière séance des questions au gouvernement, où il a été beaucoup question de la situation au Mali. Il a rappelé, très justement d'ailleurs, qu'effectivement, le déploiement de forces armées, c'est toujours une décision politique. Raison pour laquelle nous avons aussi demandé à ce que l'on puisse parler de cela.
On va y venir.
Justement, quand Emmanuel Macron dit que tout est sur la table, qu'il est prêt à revoir les modes d'intervention, est-ce que ça vous va ?
Mais je pense que c'est la bonne chose à dire. Et d'ailleurs, j'observe que quand la France insoumise l'a dit dès mardi, après avoir rendu hommage à ses 13 soldats...
Elle a dit qu'il ne faut pas être au Mali. Là, et c'est quelque chose d'ouvert pour discuter.
Alors, vous nous aurez mal écouté, Cécile Cornudet, puisque mardi, à l'Assemblée nationale, mon collègue Bastien Lachaud, qui travaille sur les questions de défense, était le premier à poser la question au gouvernement et a d'abord, effectivement, rendu hommage au nom de l'ensemble des députés, ou de l'ensemble de la nation, à ces 13 personnes décédées et a exprimé notre soutien à leur famille. Et ensuite, il a expliqué quelle était notre demande, à savoir simplement le fait de pouvoir interroger le bilan géostratégique de l'opération au Mali, puisque ça fait maintenant 6 ans que nous y sommes. Et la question qui est posée, c'est de savoir si nous atteignons nos objectifs. Et avant de savoir si nous atteignons nos objectifs, encore faut-il savoir précisément lesquels.
Alors justement, Bastien Lachaud, avec Jean-Luc Mélenchon, ce matin dans le JDD, signe une tribune où il est dit notamment il faut ramener les soldats à la maison, construire un étau de prospérité au-delà de la belle formule. Qu'est-ce que ça signifie sur le plan opérationnel? Sur le plan concret, qu'est-ce que ça signifie?
Bon, d'abord, regardons, puisque pour parler concret, il y a une chose qu'il faut dire et qu'on peut regretter, je pense, ensemble, c'est que c'est toujours quand il y a ce genre de tragédie que l'on se met finalement à parler de politique. Parce que je vous rappelle qu'en ce qui concerne l'opération au Mali, elle n'a jamais été discutée au Parlement. Au départ, c'était une opération, l'opération Serval, qui visait simplement à protéger la ville de Bamako, puis ça s'est transformé en l'opération Barkhane. Ça fait maintenant 6 années. Que nous sommes sur place, 4500 militaires qui sont déployés sur le sol malien, un peuple malien qui au départ nous a accueillis avec beaucoup de satisfaction et qui aujourd'hui, vous l'observez, parfois manifeste pour demander le retrait des troupes françaises. Donc la question fondamentale, c'est quel est notre intérêt là-bas? Que faisons-nous? Est-ce que nous servons encore finalement les intérêts du peuple malien? C'est vraiment toute la question
qui
est posée.
C'est pas simplement lutter contre le terrorisme?
Mais c'est plus que ça, parce que si vous voulez, il faut bien nommer les choses. Quand on parle de terrorisme dans la situation du Mali, de quoi précisément parle-t-on? En réalité, vous voyez, cette expression pour qualifier le Mali, elle charrie des choses extrêmement contradictoires. Vous avez d'un côté, effectivement, les authentiques terroristes islamistes, mais vous avez aussi des milices, vous avez la corruption, vous avez parfois des gens
et
qui
gagnent... Comment vous faites la différence,
gagnent...
vous, sur le terrain? Il faut pouvoir, vous pourriez, si vous étiez au pouvoir,
il faut pouvoir d'abord se dire, Michael Darmon, quels sont les objectifs que l'on poursuit? Pour moi, je crois que l'objectif qu'il faut poursuivre, c'est que le peuple malien, lui-même, ait tout indiqué pour décider de ce qu'il veut pour son pays. Or, aujourd'hui, l'État malien est complètement failli. La corruption a absolument gangréné l'État. Les services publics sont absents. Quand ils ne le sont pas, ils sont indigents.
Mais les États ont demandé secours, justement.
Comment ?
Ont demandé secours à l'Europe, à la France,
oui,
en particulier.
Oui, mais Michael Darmon, la vraie question, c'est est-ce que c'est toujours ces objectifs-là que nous poursuivons ? La démocratie et le retour, finalement, à la paix civile au Mali. Si oui... Est-ce que nos 6 années d'engagement sur place ont concouru à améliorer la situation? On doit regarder la situation froidement, de manière rationnelle.
Mais sans et les militaires que l'on voit... français sur place, vous que la situation militaire...
Attendez, parce que je ne dis pas qu'on va tous se retirer en un claquement de doigts. La question est, que faut-il faire? Aujourd'hui, la solution, pour moi, ne peut pas être que militaire. La solution est d'abord et avant tout politique. On ne peut pas avoir le retour à la paix uniquement par la solution militaire. Alors, politiquement, ce qu'il faut faire, c'est concourir à ce que la démocratie revienne. Il y a des zones au Mali où les terroristes, pour les appeler comme cela, ne sont pas présents. Ne pourrait-on pas commencer par faire en sorte que le peuple malien reprenne lui-même démocratiquement le contrôle de ces zones, de les rendre attractives, pour aussi faire en sorte que l'islamisme ne s'étende pas.
Vous reprenez un peu l'argumentation de Jean-Luc Mélenchon, et c'est normal, vous êtes coordinateur de la France Insoumise, mais vous, personnellement, à l'Assemblée, vous avez demandé une commission d'enquête sur l'efficacité des opérations.
Mais évidemment.
Vous n'êtes pas sur, au
si.
Fond, la décision politique
bien sûr.
De fond.
Mais bien sûr que si, justement, Michael Darmon. La question que nous posons, et nous l'avons déposée au nom du groupe La France Insoumise depuis le mois de février 2018, je crois, nous avions demandé une commission d'enquête parlementaire de manière à faire le bilan géostratégique de ce qu'on appelle les OPEX,
en février 2018, vous avez demandé
les opérations extérieures,
oui.
Pour savoir précisément quels sont les objectifs, est-ce qu'on les atteint. Aujourd'hui, moi, je considère que la solution est notamment politique. Et plutôt que d'être finalement dans une situation qui est en quelque sorte une forme d'enlisement, pourquoi ne pas identifier clairement avec le peuple malien les zones sur lesquelles, effectivement, aujourd'hui, les terroristes ne sont pas implantés? Pourquoi ne pas s'occuper à faire véritablement revenir les services publics là où ils ne sont plus, avec des vraies écoles
d'État?
Mais est-ce
qu'on peut le faire pour que la paix n'est pas revenue?
Mais je pense que c'est une condition, Michael Darmon, pour que la paix revienne. Je vous dis, il y a des zones au Mali qui sont encore aujourd'hui
préservés de ce point de vue. Mais les terroristes ont changé de zone. Ils ont pu
alors,
en partir,
effectivement, ils se déplacent, mais il y a des zones sur lesquelles on peut faire revenir le
peuple.
Est-ce
qu'il faut impliquer davantage nos partenaires européens? Comment on le fait?
Je crois que c'est pour l'instant assez vain, on le voit bien.
D'accord.
Ça apparaît souvent comme des vœux pieux, on peut le demander, mais je pense que ce n'est pas la solution. La solution, c'est de dire quels sont nos objectifs.
Ce n'est pas la solution de faire venir d'autres alliés avec la France?
J'en suis
Elle
pas certain.
Seule,
j'en suis pas certain pour la raison que, comme je vous le dis, je ne crois pas que la solution soit exclusivement militaire. Par exemple, quand je parle de faire revenir des écoles, si on avait vraiment des services publics, si on avait... Vous savez, il y a des zones au Mali où il n'y a plus aucun service public, il n'y a plus de tribunaux, il n'y a plus de police, il n'y a plus d'écoles. Si, par exemple, ce serait vraiment de faire revenir ces services publics, peut-être qu'on n'aurait pas alors des investissements étrangers, comme par exemple ceux de l'Arabie Saoudite, qui font ouvrir des écoles coraniques sur le sol malien. Voilà, il faut se poser la question de finalement... Quels sont nos objectifs? Est-ce qu'on les atteint? Aujourd'hui, je suis au regret de vous le dire, Michael Darmon, et on peut le déplorer ensemble ce matin. Depuis 6 ans que nous sommes sur place, la situation ne s'améliore pas. Donc il faut bien pouvoir politiquement traiter de la question. Et d'ailleurs, j'observe que si. Emmanuel Macron ne dit pas autre chose après nous hein, sur le sujet. Donc oui, il faut pouvoir
mais
se
pour vous,
fixer est-ce... comme objectif, Michael Darmon, à terme, le retrait. Enfin, on ne s'est pas engagé mais... pour rester ad vitam aeternam sur place.
Aujourd'hui,
et le plus important, le cœur de l'affaire, c'est que le peuple malien puisse décider de ce qui est bon pour lui-même.
Les chefs d'État de la région du Sahel, notamment encore il n'y a pas longtemps, au Forum de la paix, le président du Niger disait si nos États tombent, l'Occident, l'Europe tombe ensuite derrière. Est-ce que pour vous, le préalable n'est pas d'abord de stabiliser une région avant de commencer à reconstruire?
Mais
vous dites, la guerre n'est pas terminée, mais il faut déjà penser à la reconstruction.
Vous m'écoutez?
Ben oui,
je vous explique qu'il y a des zones de conflit et des zones de guerre, mais que sur l'ensemble du territoire malien, il y a aussi des zones qui aujourd'hui ne sont pas occupées par l'activité terroriste. Et je reprécise que quand on dit activité terroriste, en réalité, il y en a beaucoup qui s'adonnent à du terrorisme pour des motifs qui sont différents. Donc encore faut-il cibler les objectifs. Moi, je pense que la solution est d'abord et avant tout politique et qu'on peut faire en sorte de rendre des zones attractives pour le peuple malien de manière à contenir, y compris l'étendue et l'expansion, finalement, de ces groupes terroristes. Voilà un objectif qui est politique.
Et s'il n'y a pas de débat, s'il n'y a pas de vote à l'Assemblée, justement, sur cette question, c'est parce que l'exécutif pense qu'il n'y aurait pas de majorité aujourd'hui sur cette intervention militaire que les Français...
Vous savez, je pense qu'au-delà de la question particulière du Mali, c'est une question qui est aussi typiquement française. C'est le propre de la monarchie présidentielle où
c'est la prérogative cet aspect-là
est le fait du prince, en quelque sorte. Voilà. Et généralement, quand on discute d'ailleurs du déploiement de forces militaires à l'international, on en discute après que l'opération ait été engagée. D'ailleurs, dans les
parfois
règles de la Constitution,
le
gouvernement doit informer le Parlement, mais il n'y a pas de discussion en amont, et c'est tout le problème.
Ça prend
et
du
vous,
temps,
est-ce que
hein,
vous voulez échanger quand vous dites que vous voulez exercer le pouvoir, on arrivera au pouvoir.
Et vous avez l'air d'en douter, Michael
Non,
Darmon.
Pas du tout, je pose la question. Moi, je ne doute pas, je regarde. Simplement, vous en parlez régulièrement, donc ça veut dire que ça vous questionne sur le régalien également, ce que l'on appelle justement ces grandes prérogatives d'un chef de l'État.
Bien sûr.
Vous les admettez ?
Mais évidemment, la paix est un objectif et la paix est une construction politique. Voilà. Là, ça fait 6 ans qu'on est engagé sur place.
Par le renseignement, par le secret défense.
De toute évidence. Et je ne dis pas le contraire. Mais convenez avec moi, si vous le voulez bien, que la solution au Mali n'est pas que militaire. Et que l'intérêt de la France, c'est de concourir à ce que le peuple malien lui-même puisse décider. Vous savez, il faut aussi se garder d'une certaine relation qu'on peut avoir parfois avec l'Afrique qui ferait que parce qu'on est l'ancien pays colonisateur, eh bien on donnerait finalement des consignes à tout le monde. Le cœur de la solution au Mali, c'est que le peuple malien puisse souverainement décider de ce qu'il veut pour son État, un État qui a aujourd'hui failli et dont on peut déplorer que malgré 6 années de présence française sur ce territoire, la situation ne s'améliore pas. Vous savez, on le doit aussi, cette explication et ce débat, on le doit aussi aux familles endeuillées. Parce que ce ne sont pas les militaires qui sont en cause, ce sont des décisions politiques. Les militaires, ils servent et ils obéissent. Donc il faut pouvoir expliquer aux familles ce que nous faisons précisément sur place, dire ce que nous réussissons moins, mais surtout quel objectif nous visons. Voilà, je pense que c'est effectivement le débat qu'il faut avoir dans la période. Mais demain, l'urgence absolue, c'est d'être réunis autour de ces familles et de ces cercueils que l'on va voir face à nous dans la cour des Invalides et d'avoir des mots de compassion.
Et on vous y retrouvera demain, la semaine qui commence, évidemment. C'est celle d'une autre bataille. On se retrouve dans quelques instants pour en parler.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleureau, Michaël Darmon.
Et surtout notre invité, Adrien Quatennens, donc député du Nord, coordinateur de la France Insoumise. Cette semaine, le jeudi 5 décembre, ce sera peut-être le début de cette fameuse convergence des luttes, mais on va voir quel rôle vous allez pouvoir y jouer. Cécile Cornudet.
Oui, vous allez manifester le 5 décembre, Adrien Quatennens, et pour la première fois, ce sera aux côtés du Rassemblement National. Jamais le RN, ni avant lui le FN, ne s'était joint à un mouvement syndical. Gérald Darmanin, ce matin dans le JDD, dit que c'est une première historique, mais ça ne vous pose pas question ?
Bon, j'espère qu'on va pouvoir parler du fond après.
Mmh.
Mais
ah oui,
si vous voulez qu'on parle du Rassemblement National, on peut le faire. Moi, je ne suis pas gêné avec ça. Écoutez, je crois qu'il est urgent maintenant de le faire reculer. Pour la première fois, je pense que le Rassemblement National pourrait l'emporter dans ce pays. Et je ne veux pas de l'extrême droite.
En 2022 ?
Je ne veux pas de l'extrême droite, effectivement, au pouvoir dans ce pays. Alors, il faut pouvoir le faire reculer. Et la question, c'est comment on procède pour le faire reculer. Parce que pour l'instant, ce qui se passe depuis des années, c'est que finalement, on se contente parfois de crier au fascisme, de fustiger l'extrême droite, sans finalement vraiment toujours mener le combat de face au Rassemblement National. Moi, je crois que si quelqu'un connaît une autre méthode, hein, il le dira, moi je n'en vois qu'une. C'est de convaincre une part de celles et ceux qui votent pour le Rassemblement National de faire d'autres choix. Je pense qu'au sein de l'électorat du Rassemblement National, il y a sans doute des gens qui sont convaincus par le projet ethniciste de Mme Le Pen. Ceux-là, vous admettrez qu'ils seront peut-être difficiles à convaincre. Mais il y a tous les autres.
Mais est-ce qu'il ne faut pas d'abord convaincre une partie de votre électorat qui...
Non, attendez, je termine la démonstration, si vous
le
voulez bien. Non, parce que ça, pour moi, ça n'existe pas.
Ça n'existe
très
pas.
Franchement,
d'accord.
Où c'est extrêmement résiduel. Mais en réalité, ce qu'il faut dire, c'est que beaucoup de Françaises, de Français qui votent pour Mme Le Pen ont intériorisé, pour une raison que j'ignore, que finalement, c'était le vote qui permettrait de mettre un coup de pied aux fesses à tout le système. Il y en a certains qui pensent vraiment faire un acte presque, pour reprendre les termes de M. Darmon, révolutionnaire.
Ils ont changé au début
en votant
du
pour Mme Le Pen.
Ils pouvaient penser que c'était alors vous
moi, je vais,
et
je vais,
ils ont évolué.
Non, mais moi, je vais dire une chose, c'est que là, pour le coup, c'est un défi. Il faut pouvoir convaincre et faire des démonstrations. Et moi, je le dis à celles et ceux qui sont en colère et qui vote Madame Le Pen, non pas par souci de son programme, mais pour exprimer cette colère, vous faites une erreur. Je le dis tranquillement, mais si vous
attendez,
si vous appliquez le programme de Madame Le Pen, souvent vos propres intérêts, ceux qui votent pour elle, sont contredits. Je prendrai qu'un exemple, le grand mouvement populaire qu'on a connu depuis maintenant plus d'un an dans ce pays, qui avait notamment pour revendication un meilleur partage des richesses. Madame Le Pen a mis sur sa liste aux européennes des gens qui sont favorables à la suppression de l'ISF. On a une demande d'augmentation des salaires. Madame Le Pen, sur les plateaux télé, raconte qu'elle est contre l'augmentation du SMIC. Donc je veux dire, si vous voulez, qu'il y a des gens qui, de mon point de vue, en pensant mettre un coup de pied aux fesses au système en votant pour Madame Le Pen, alors, se mettent en fait un coup de pied aux fesses à eux-mêmes. Après, bon, que Madame Le Pen se découvre désormais une fibre sociale, bon, c'est pas la première fois qu'elle essaye de chasser sur d'autres terres que les siennes. Bon,
mais voilà. Vous manifestez contre les retraites ou contre la politique d'Emmanuel Macron ?
Alors, moi, je pense que c'est bien évidemment au mouvement syndical et à celles et ceux qui seront mobilisés de dire quelle direction ils veulent que le mouvement prenne. Moi, j'ai ma conviction. C'est que la bagarre, elle se situe sur le terrain des retraites. Et je crois en plus que le gouvernement est en difficulté, que petit à petit nous arrivons à démasquer ses intentions réelles, j'espère qu'on aura le temps d'en parler juste après, et que du coup, eh bien, il peut reculer. Donc, je le dis, la mobilisation du 5 décembre et ses suites, parce que j'estime qu'il va falloir que tout cela dure un peu, et je l'espère, j'espère qu'on ira du 5 au 7, et puis après le reste aussi, doit permettre d'avoir le rapport de force nécessaire pour que le gouvernement remballe
aussi,
sur sa réforme
des retraites.
Vous
devez convaincre aussi maintenant que vous avez des propositions à faire, un vrai contre-projet. Damien Fleurot.
Oui, il y a des ouvertures de la part du gouvernement sur cette réforme des retraites. On sent que sur le sujet de la pénibilité, le gouvernement est prêt à faire des concessions. Sur la gouvernance aussi paritaire du futur système qui pourrait être confié aux syndicats, vous seriez contre que les syndicats gèrent ce futur système des retraites ?
Non, mais on peut discuter de toutes ces modalités, du fait que, effectivement, pour moi, la sécurité sociale, c'est d'abord et avant tout le fait des salariés. Donc, pour moi, c'est d'abord les salariés qui doivent, et leurs syndicats qui doivent pouvoir décider. Mais je voudrais, si vous voulez
donc
bien.
Ça va plutôt dans le bon sens, ces
attendez, justement. Je voudrais bien profiter de mon passage chez
allez-y,
vous ce matin
allez-y.
Pour que ceux qui nous écoutent comprennent vraiment ce que va faire le gouvernement.
Regarde.
D'accord ? Parce que, en fait, ce qu'il veut faire, c'est derrière l'alibi de l'universalité et de l'égalité, c'est faire les poches de tout le monde. Je m'explique très concrètement. Jusqu'à présent, notre système de retraite avec la sécurité sociale a plutôt bien fonctionné. D'ailleurs, il n'est pas en déséquilibre immédiat ou en péril immédiat. Tout le monde le sait, même le gouvernement le dit. Pour une raison, c'est qu'à mesure que la part des seniors dans la population de ce pays a augmenté, on a augmenté à peu près d'autant et parallèlement les ressources allouées au financement des retraites. C'est Emmanuel Macron qui procède désormais à une rupture. Entendez-moi, Emmanuel Macron veut geler à 14%, c'est-à-dire au niveau actuel, la part des richesses consacrées aux retraites. Tout ça est un peu technique, mais
donc
alors
vous
que
dites qu'il faut
attendez,
mettre plus
je termine.
Pour
alors
financer.
Pour que les gens comprennent bien, parce que si vous voulez, la réforme, elle sera votée, que les gens comprendront toujours pas, avec un gouvernement qui en plus leur dit rassurez-vous, ça ne vous concernera pas, etc. Moi d'ailleurs, je me pose la question si cette réforme est un progrès, pourquoi on rassure en disant ça ne s'appliquera pas à vous ? Si c'est un progrès, tout le monde devrait courir pour que ça s'applique à soi-même. Ça n'est pas le cas. Le gouvernement veut donc plafonner les ressources qui vont être alloués aux retraites, la part des richesses allouées aux retraites, alors que, on le sait, les projections démographiques montrent qu'il va y avoir toujours plus de seniors. Par conséquent, s'il fallait schématiser les choses, en gros, nous allons être toujours plus nombreux à table, on le sait, et Emmanuel Macron nous dit « je ne cuisinerai pas un plus gros gâteau ». Le système par
quoi, vous proposez quoi
j'y viens.
C'est il faut travailler plus longtemps, vous l'avez
donc,
admis aussi.
J'y viens, Michael Darmon. Ce qui veut dire que le système par point ne permet qu'une chose, entendez-moi bien, couper toujours de plus petites parts de ce même gâteau. La conséquence, c'est qu'il faudra soit travailler beaucoup plus longtemps pour atteindre le même niveau de pension, soit que les pensions vont diminuer. Et ceux qui en sont réjouis, ce sont les assureurs et les banques qui se disent que si le système par répartition
le gouvernement dit
devient
qu'il n'y aura pas de baisse des pensions.
Et vous n'envisagez
mais
pas que le gâteau puisse
si, je vous le dis, Cécile Canludet, entendez-moi. Tout le monde est concerné, tout le monde, sans exception. Et tout le monde sera perdant. S'il y avait des gagnants, ils ne seraient que très temporaires et anecdotiques. Enfin, vous êtes dans un journal, Les Échos, donc vous maîtrisez un peu l'économie. Si la part des richesses,
pas qu'un peu.
Si la part des richesses produites est plafonnée, alors que la part des seniors dans la population continue à augmenter, et qu'on n'augmente pas cette part des richesses, si les pensions, comparativement aujourd'hui, vont baisser. Et si vous voulez atteindre le même niveau de pension, il faudra
ça,
travailler
dans le cas
toujours
où la croissance
plus
n'augmenterait
plus.
Pas. Pourquoi vous êtes pessimiste à ce point ?
Non,
la croissance pour augmenter,
non,
le gâteau
même si, la croissance augmente, Michael Darmon, si la part des seniors dans la population augmente plus vite, alors ce qui va se produire, c'est qu'il faudra travailler plus longtemps ou que les pensions vont baisser. Mais je vous le dis, peut-être que vous avez les moyens de faire de la capitalisation, mais vous-même, vous êtes concernés, vous aussi, tous ceux qui sont dans ce studio, dans la régie et ceux qui nous écoutent sont concernés.
Donc vous proposez quoi ?
Alors, ben moi, je pense que ce qu'il faut dire, c'est quel est l'objectif politique. Emmanuel Macron nous dit souvent, on vit plus longtemps, il faudra travailler plus longtemps.
Il dit, c'est réduire les injustices.
Oui, alors attendez, on y vient.
Quel est en quelques minutes votre contre-projet, quel est-il ?
D'abord, moi, je considère que si on vit plus longtemps, c'est notamment parce que l'on a travaillé moins longtemps. L'espérance de vie en bonne santé dans notre pays est de 63 ans. Eh bien, à la question « Que voulons-nous pour nos vieux jours ?», Emmanuel Macron répond « Faire des économies sur le dos des retraités ». Moi, je réponds « Que voulons-nous pour nos vieux jours ?» Oui, la retraite, c'est quelque chose de positif. C'est un nouvel âge de la vie où l'on prend soin de soi, de ses proches, où l'on s'engage. On devrait d'ailleurs quantifier les économies incroyables que font faire les retraités de ce pays à tout le peuple français.
Très bien. Qu'est-ce que vous répondez aux Français qui sont pour la réforme d'un système de retraite à 76% aujourd'hui pour une réforme ? Qu'est-ce que vous leur dites ?
Alors, je leur dis d'abord...
À part que la retraite, c'est beau.
Non, attendez, Mickaël Darmon. Tranquille, je vais
vous
répondre.
Tranquille.
Allez-y. 5 décembre, celles et ceux qui feront grève, comme celles et ceux qui vont subir la grève, ont en fait un intérêt commun à ce que le gouvernement remballe sa réforme. Le gouvernement va jouer des divisions. D'ailleurs, l'universalité n'est qu'un alibi. On parle beaucoup des régimes spéciaux de retraite qui ne concernent que 3% de la population active.
Il n'empêche quand il dit le chauffeur de bus de la RATP part beaucoup plus tôt
très
que
bien.
Celui des municipalités.
Alors, ne peut-on pas imaginer une harmonisation qui ne se fasse pas par le bas ? Moi, je pense qu'on peut étendre la reconnaissance de la pénibilité par des critères à d'autres professions. Parce que
si
c'est pénible
ont changé,
de conduire un bus.
Même si les métiers ont changé.
C'est pénible peut-être, oui, de conduire un métro dans l'obscurité toute la journée. Demandez un peu aux agents de la RATP ce qu'ils en pensent. Enfin, faites-le, vous essayez, on verra bien si c'est pénible. Vous nous le direz après peut-être une semaine ou deux d'expérience.
Pourtant, les Français considèrent qu'ils sont avantagés, que ces systèmes ou autonomes ou
vous avez raison, Mickaël Darmon, le gouvernement fait ce pari que la jalousie des Français entre eux serait plus importante que l'aspiration de tous à de bonnes retraites. Attendez, laissez-moi développer un peu, parce que sinon on s'en sort pas. Vous voulez que les gens qui nous écoutent comprennent bien, essayez de laisser un peu un développement politique se faire. Je fixe un cap. Que l'on parte à la retraite à un âge décent. Qu'est-ce qu'un âge décent ? Moi, avant d'être député, j'étais conseiller clientèle sur un plateau téléphonique. J'ai regardé pour ma génération l'âge d'équilibre de M. Delevoye, c'est 66 ans et demi. J'imagine mal des conseillers clientèle sur les plateaux téléphoniques jusqu'à 66 ans et demi. J'imagine mal des pilotes de ligne jusqu'à 68 ans. Or, cet effet, c'est que ça va déporter mécaniquement l'âge auquel il faudra partir pour avoir un niveau de pension décent. Moi, je suis pour qu'on défende la liberté de partir dès 60 ans. Et avec un niveau de vie qui est maintenu, votre départ en retraite ne doit pas constituer un décrochage de votre niveau de vie. Et je pense que l'on peut, oui, étendre la pénibilité à d'autres métiers. Voilà qui me semble être un objectif politique, pas simplement faire des économies.
Et on finance comment ?
Voilà la question que j'avais bien sûr anticipée. Il faut donc cuisiner un plus gros gâteau, en quelque sorte, s'il y a plus de monde autour de la table. Comment on le cuisine ? Il y a d'abord des hypothèses à très court terme. Si, par exemple, on mettait fin à l'inégalité persistante des salaires entre les femmes et les hommes, qui est inacceptable et qui est aujourd'hui de l'ordre de 20%, vous avez immédiatement des cotisations en plus dans les caisses. Si on augmente les salaires, comme quoi tout est lié en économie, rien qu'1% d'augmentation de salaire, c'est 2,5 milliards de cotisations en plus. Si l'on crée de l'activité et de l'emploi, quand nous parlons de la planification écologique...
Donc il faut de la croissance dont vous parlez, au fond, membres du gouvernement vous avez rencontré récemment.
Arrêtez ces raccourcis.
Non, je pose la question pour clarifier.
Non, je vous dis, on peut effectivement relancer l'activité par les salaires, on peut créer des cotisations en plus. Ensuite, une autre question, la mise à contribution des revenus du capital. Mickaël Darmon, la question des retraites, c'est aussi la question du partage de la valeur. Un salarié français en 1980 travaillait 9 jours par an pour rémunérer les actionnaires. C'est 45 aujourd'hui. Ne peut-on pas, je vous pose la question, imaginer qu'on répartisse mieux ? Et ensuite, dernière piste de financement, vous voyez que c'est assez précis,
on
fera un contre-projet chiffré bientôt, c'est la cotisation. Oui, à moyen long terme, toutes les projections économiques, notamment celles du COR, le Conseil d'orientation des retraites, montrent que l'on peut augmenter le salaire net tout en augmentant les cotisations. Les cotisations, je demande qu'on entende, c'est une part de votre salaire. Quand Emmanuel Macron vous dit « je baisse vos cotisations, j'améliore votre pouvoir d'achat », il vous ment. Parce que pour le petit gain que vous avez sur le salaire net, demain c'est de la santé en moins, c'est des retraites en moins. Je termine juste en disant, quand M. Macron nous dit... Est-ce que travailler plus longtemps fonctionne aujourd'hui dans notre pays ?
Question à laquelle on répond dans quelques instants, s'il vous plaît.
10h, 11h, Le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et notre invité Adrien Quatennens, le débat est sur les retraites et nous, on doit comprendre effectivement, selon vous, quelle réforme se prépare du côté du gouvernement. Cécile Cornudet.
Sur cette question des retraites, il y a une bataille qui s'engage, c'est celle de l'opinion. Est-ce que vous n'avez pas intérêt, pour que les usagers ne se sentent pas pris en otage par les grèves, à inventer des choses nouvelles pour qu'il y ait un minimum garanti, enfin qu'on soit moins dépendant des transports?
Vous savez, la grève, par définition, ça gêne. Et ça ne plaît pas ni à ceux qui la font. C'est un effort de faire
des grèves. Et ça ne vous gêne pas, vous, de gêner les gens?
Posé comme ça, c'est sûr qu'on peut y réfléchir. Moi, je pense, Mickaël Darmon, que concrètement, si on parle du 5 décembre, et pour citer la question des transports, je voudrais que soit entendu, et le gouvernement n'y aide pas, bien sûr, c'est sa stratégie, que ceux qui vont se retrouver bloqués sur les quais ont intérêt à ce que le mouvement social réussisse. Parce que eux aussi, quelle que soit leur profession, quel que soit leur régime, oui, mais... ils vont être concernés, et ils vont aussi manger la terre avec cette réforme, parce que mécaniquement, comparativement au système actuel, les pensions baissées, il faudra travailler plus longtemps. Donc, évidemment, il y a des secteurs de la société qui ne sont pas habitués à faire la grève, qui ne le supportent pas. Culturellement, ils se disent « Oula, c'est le beans dans le pays ». Bon, mais en réalité, ils ont intérêt à ce que le mouvement social soit un succès. Donc, je dis, et j'appelle peut-être les militants de la France insoumise à le faire. Bien évidemment, ce 5 décembre, il faudra participer aux manifestations pour être le plus nombreux. Ça participe du rapport de force. Même si avec les transports mis en difficulté, peut-être certains auront du mal à rejoindre les manifs. Raison pour laquelle, par exemple, à Paris, on organise nous des cars pour que des gens qui sont éloignés de la manifestation puissent y venir. Mais je crois que l'une des tâches que pourraient accomplir les militants de la France insoumise, c'est d'aller à la rencontre directement sur les quais des gares des usagers, avec notre tract que nous avons fait sur les retraites, qui est bien fait, pour pouvoir aller expliquer aux usagers,
est-ce que les Français pouvoir aller rencontrer, vous pouvez vous dire arrêtez de nous embêter, nous on veut travailler tranquillement, on veut faire les courses de fin d'année, on veut cette réforme des retraites, on la veut et on vient de le voir avec
pendant la réforme de la SNCF, alors c'est ce qui s'était passé.
Mickaël Darmon, peut aussi vous dire ça. Les Français qui vont subir la grève, je vous le dis, ont intérêt à ce que cette réforme soit retirée. Charge à nous, et c'est une tâche que je propose aux insoumis, d'aller à la rencontre des usagers qui vont pâtir les premiers de cette grève pour les faire passer du côté des grévistes. Voilà. Mais parce qu'encore une fois, je vous le dis, ça n'est pas la grève du maintien de quelques privilèges, du maintien de quelques régimes. Ça, c'est l'alibi du gouvernement. Vous savez, l'universalité, l'égalité. Mais songez-y un instant. Est-ce que le fait que tout le monde parte d'une même ligne de départ pour une retraite par points est égalitaire? Est-ce que ça corrige quoi que ce soit des inégalités persistantes, par exemple, d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier? Vous savez qu'entre un cadre et un ouvrier, c'est 6 années d'espérance de vie d'écart dans ce pays. Entre les 5% les plus riches et les 5% les plus pauvres, 13 années. Donc, si vous voulez, l'universalité, que soit entendue, dans la réforme de M. Macron, l'universalité est un alibi pour procéder en réalité à un gel de la part des richesses consacrées aux retraites. Même pour ceux qui ont des gros revenus, Mickaël Darmon, Emmanuel Macron... abaisse le plafond à partir duquel vous n'ouvrez plus de droits. C'est-à-dire que c'est un encouragement à un transfert des richesses de la sécurité sociale vers le privé. Enfin, les retraites, c'est 300 milliards d'euros. C'est un magot qui intéresse beaucoup d'appétit. Tout le monde va perdre. Donc le gouvernement va essayer de jouer de la division entre les Français. Je dis, n'y succombez pas. Nous avons toutes et tous intérêt à ce qu'il retire sa réforme, mais je redis que je ne défends pas le statu quo et que nous allons proposer une contre-réforme dont les grands axes sont la liberté de partir à 60 ans, pas une retraite sous le SMIC pour une carrière complète et aucune retraite sous le seuil de la pauvreté.
Vous l'avez dit,
l'extension de la pénibilité en fonction de critères. On regarde quels sont les critères de pénibilité et on fait rentrer toutes les professions qui répondent à ces critères en accordant des trimestres supplémentaires de cotisation lorsqu'on a un métier pénible. Oui, voilà, je crois qu'il y a
juste un mot, et on va passer ensuite à un autre sujet très important. C'est pour vous une bataille contre la réforme des retraites ou vous voulez engager la grande lutte, la grande contestation contre le gouvernement Macron et faire tomber ce gouvernement?
Dans le pays, c'est clair, les colères sont nombreuses. Elles sont nombreuses parce que tout le monde voit bien qu'en 2 ans et demi de quinquennat d'Emmanuel Macron, la promesse de prospérité qui avait été faite en redistribuant aux plus riches, ça ne marche pas. En 2 ans et demi, les 0,1% les plus riches ont eu 23 000 euros par an en moyenne de plus
mais
pour
en
eux.
En 2 ans et demi, vous n'êtes pas parvenu à fédérer la gauche.
Laissez-moi terminer si c'est possible. Et la pauvreté, elle, s'est étendue. Les services publics sont devenus dans une situation critique. On voit notamment la santé. L'État républicain s'érode. Et donc, il y a beaucoup de colère. Néanmoins, moi, je pense, c'est mon avis, que sur la bataille qui s'engage le 5 décembre, Il ne faut pas dévier, il faut aller sur les retraites, à mon avis, parce qu'on peut faire reculer ce gouvernement. Je le dis haut et fort, compte tenu de ce qu'est la réforme, si on arrive à faire l'explication aux Français, loin de cette tentative de diviser les Français entre eux, que tout le monde est concerné, que tout le monde sera perdant, et moi je suis prêt à débattre avec n'importe qui du gouvernement pour en faire la démonstration, alors nous pourrons gagner, et alors le gouvernement pourra reculer et remballer cette réforme.
On vous invitera à nouveau pour pouvoir en parler dans d'autres éditions, bien sûr, sur Europe 1. Par rapport à également un autre sujet sur lequel vous êtes peut-être finalement un peu moins allant, peut-être un peu plus en difficulté. On va en parler tout de suite. D'abord, on écoute Christophe Castaner, on écoute, on regarde.
Par idéologie ou par ignorance, certains minimisent la réalité des atteintes à notre pacte républicain. Les enfants déscolarisés, la haine professée. Ils s'abritent derrière un argument d'apparence imparable. Ils nous accusent d'islamophobie. Ne les laissons pas se déguiser en victimes. La haine en France, d'où qu'elle vienne, n'a pas droit de citer. Et cette haine n'a rien à voir avec l'islam.
Il vous vise là, Christophe Castaner, il vise certains de vos élus ?
Non, je ne le crois pas. Je ne me sens en tout cas pas visé par ses propos. Je veux dire aussi, Mickaël Darmon, que non, aucun sujet ne me met en difficulté, aucun. Et que quand M. Castaner parle d'atteinte au pacte républicain, ferait bien de ne pas être uniquement sur un seul sujet. Parce que moi, je veux vous le
dans
dire...
Dans votre mouvement, on n'est pas très au clair sur ce sujet. Il y a des dissensions, des divergences.
Mais on va en parler. Je vous me défie de trouver une dissension,
c'est
une divergence.
C'est pas une question de défi. Moi,
attendez, en attendant dire une chose. Oui. Le pacte républicain, ça n'est pas que le sujet abordé ensuite dans sa démonstration par M. Castaner. Quand un préfet de police interpellé par une femme dans la rue se vit et s'explique comme étant dans un camp opposé à une partie de la population de ce pays... C'est une atteinte fondamentale au pacte républicain. Quand un mouvement social est finalement réprimé, comme a été celui des Gilets jaunes, avec, on l'a vu encore récemment, des gens qui sont tout à fait pacifiques, qui ont le pacifisme chevillé au corps, qui viennent en manifestation et qui se retrouvent, on a vu ces images, avec un tir de grenade tendu en pleine figure, ça n'est pas non plus le pacte républicain, d'accord ? La République, vous savez, elle a parfois bon dos. Et moi, j'en vois certains qui se parent derrière la République et la laïcité pour faire autre chose que ce qu'est véritablement la République. Donc non, moi, sur ces sujets, je ne suis absolument pas en difficulté. D'ailleurs, posez-moi toutes vos questions, j'ai aucun problème avec ça.
Le problème n'est pas de vous mettre en difficulté, le problème est de justement la question et de vous
amener à clarifier. Je dis ça parce que vous avez commencé par dire des sujets qui vous mettent en difficulté. Oui. Non, il n'y en a pas.
Parce que dans votre propre parti, il y a des discussions, notamment sur la question de l'islamophobie, par exemple, avec la manifestation il y a quelques jours.
Expliquons-nous
là-dessus. Dans votre parti, la question que je vous pose, c'est une question ouverte. Est-ce qu'il y a des dissensions ? Est-ce que tout le monde est sur la même ligne sur les questions de laïcité, de l'islamophobie, telle qu'on a pu le constater ces derniers jours ?
C'est la France insoumise, Mickaël Darmon, est un mouvement républicain. Pas au sens incantatoire, au sens conséquent. La République, ça n'est pas un régime neutre. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est l'unité du peuple français et la concorde du peuple français. Et nous en avons plus que besoin face aux grands défis auxquels nous sommes confrontés. Vous devez bien admettre qu'à Bayonne, avec l'attaque de la mosquée, l'attaque de Fidel, il y a eu un franchissement de seuil considérable. Dans un contexte de libération de la parole... qui stigmatise les musulmans. Et d'ailleurs, j'en profite, puisque je suis sur l'antenne de CNews, pour dire qu'effectivement, nous avons un problème avec le fait que certaines chaînes continuent à laisser liberté totale de parole à des gens comme Éric Zemmour, qui ont été... Je termine. Je sais que ça vous met en cause, donc vous allez répondre. Qui ont été condamnés par la justice, qui sont des délinquants pour avoir tenu des propos d'incitation à la haine. Je dois vous dire une chose.
Adrien Quatennens, vous êtes là aujourd'hui sur l'antenne de CNews, mais également sur l'antenne d'Europe 1. Donc
bien sûr.
Aimable à vous de ne pas prendre forcément en otage les auditeurs de
Je réponds
1,
à la question
et
de...
Et vous êtes invité, bien entendu, à débattre face à Éric Zemmour.
Je réponds, non mais...
Vous n'avez Éric Zemmour, aucune de mon difficulté point de vue, à débattre.
Non mais Éric Zemmour, donc, de mon point de vue, ayant été condamné pour incitation à la haine, avec des paroles qui, de mon point de vue, sont des paroles de guerre civile, ne devraient plus avoir le droit d'être sur une antenne. C'est mon avis, c'est peut-être pas le vôtre, mais c'est le mien.
C'est votre avis.
Et je vous le dis. Alors, je réponds à votre question.
Vous avez voulu en parler, très bien.
Donc, la manifestation, la manifestation du 10, Mickaël Darmon. Dire une chose, nous ne pouvons pas supporter, et aucun républicain conséquent ne peut supporter qu'une part de notre population soit stigmatisée, comme c'est le cas aujourd'hui de plus en plus en France, en fonction de son appartenance religieuse. La République, la laïcité, ça n'est pas le combat contre une religion. Et en participant à la manifestation du 10, la France insoumise a fait une démonstration, y compris à nos compatriotes de confession musulmane qui se sentent stigmatisés, qui est de dire, eh bien oui, vous avez des forces républicaines conséquentes d'appui qui sont pour la concorde entre tout le peuple français, quelle que soit son appartenance réelle ou supposée à telle ou telle religion. Et c'est aussi un signal qui est de ne pas laisser le combat antiraciste à des personnes qui peut-être auraient d'autres visées, notamment communautaires.
Pourquoi, lorsqu'on parle du Mali, vous dénoncez l'existence des écoles coraniques et pourquoi vous ne les dénoncez pas lorsqu'elles existent dans nos propres quartiers, dans nos propres banlieues?
Mais donc vous
France.
Nous aurez mal entendu, peut-être par confort, Michael Darmon.
Non, je vous
mais
pose
à chaque
question.
Fois, à chaque fois que la religion prétend imposer ses lois en politique, vous nous trouverez toujours comme ennemi résolu de cette tentative de la religion de venir en politique.
Il y a pourtant des élus chez vous, notamment dans les quartiers populaires, qui sont, par exemple, pour le fait que le voile puisse être porté par des mamans dans les sorties d'école.
Mais attendez.
Il existe un débat à ce sujet. Quelle est votre position ?
Est-ce que vous savez ce qu'est la laïcité ? La laïcité, c'est la mise à distance du religieux, des vérités révélées, des débats politiques. Et ça, là-dessus, nous serons toujours intransigeants. Nous sommes des républicains conséquents et donc des laïcs absolument convaincus et méthodiques. Donc, là, le cas que vous évoquez précisément, on n'est pas dans le cadre intérieur de l'école. Parce qu'il y a une solution immédiate à ce que vous suggérez.
Si vous voulez que... Je vous pose des questions.
Si vous voulez que... Si vous voulez que les personnes qui accompagnent les enfants en sortie scolaire, parce qu'il faut quand même que les enfants sortent en sortie scolaire. Et aujourd'hui, comme il n'y a pas les fonctionnaires pour le faire, on fait appel aux parents qui souvent donnent de leur temps et de leur cœur pour venir accompagner nos gosses. Vous voudriez faire la police du vêtement pour ça? Il y a peut-être une solution. Non mais attendez, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on demande que ce soit des fonctionnaires qui les accompagnent. Parce que Michael Darmon, oui, les fonctionnaires qui personnifient l'État, ils sont soumis à l'objectif de neutralité. Mais vous ne pouvez pas faire la police du vêtement dans la rue. La laïcité, ça n'est pas ça. Oui, quand vous êtes dans le service public, quand vous représentez l'État ou quand vous êtes un responsable politique, vous êtes tenu à la neutralité. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entorses à la laïcité parce qu'on parle toujours d'une seule religion. C'est aussi un problème. Moi, je veux bien qu'on parle des signes religieux, mais j'en ai assez que l'on parle uniquement d'une religion. Et surtout, ce qui est inacceptable, c'est qu'on s'en prenne à des personnes.
En l'occurrence,
parce qu'on peut critiquer, les religions, c'est une évidence. Mais on ne peut pas s'attaquer à des personnes en fonction de leur appartenance religieuse. Voilà qui devait être dit. Et je crois que c'est ça, être un républicain convaincu et conséquent. Quand quelqu'un attaque une mosquée, c'est un acte antipatriotique aussi.
Absolument.
Voilà qui doit être dit.
On va continuer à en parler. On se retrouve dans quelques instants avec vous, Adrien Quatennens.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Cécile Cornudet, Damien Fleurot, Michaël Darmon.
Et on retrouve Adrien Quatennens pour cette dernière partie du grand rendez-vous. Vous allez tenir la veille donc, des mobilisations à Lille, un meeting pour parler aussi de la mi-mandat, un peu votre propre bilan finalement. Vous avez évoqué justement le besoin de lutter, de faire reculer le Rassemblement National et Marine Le Pen. Est-ce que ça veut dire que vous appellerez ou pouvez appeler un front républicain pour l'abattre?
Mais je pense que, vous savez, tout ça, malheureusement, ça n'a pas marché par le passé. Je crois que c'est par la conviction et les contenus que nous allons porter que nous allons pouvoir convaincre. C'est la mi-mandat, vous l'avez dit, ça fait 2 ans et demi que le groupe de la France Insoumise est à l'Assemblée nationale.
Est-ce qu'on peut répondre à cette question précisément ? Est-ce qu'il faut un front républicain lorsqu'il s'agit de faire battre le RN ?
Vous savez, un front républicain, aujourd'hui, pour beaucoup, c'est une incantation. Souvent, quand vous donnez des consignes de vote, bah, du coup, elles ne sont même pas respectées. Non, moi, je pense qu'on fera reculer le Rassemblement national en faisant la démonstration que son programme ne solutionne rien des grands problèmes qui se trouvent être confrontés pour beaucoup de notre population, beaucoup de notre peuple, et puis surtout en faisant des propositions qui portent un autre idéal. Enfin, regardez un petit peu aujourd'hui, et j'aurai l'occasion d'en parler lors de ce temps de la mi-mandat, mais on a quand même une chape de plomb sur le pays, on ne sait pas bien où on va, on voit que pour l'instant la politique d'Emmanuel Macron n'apporte pas les résultats escomptés, on voit que les plus riches, une petite minorité s'enrichissent, que la pauvreté s'étend. Vous avez vu les Restos du Cœur, les chiffres, 50% de ceux qui bénéficient de la campagne Restos du Cœur ont moins de 26 ans. Juste une dernière chose, on a un défi climatique à résoudre. Moi je suis persuadé, je termine là Michael Darmon, que notre pays, la France, a tous les atouts pour pouvoir finalement ouvrir la voie de cette grande bifurcation. Il est urgent maintenant, compte tenu de ce qu'on dit des scientifiques, d'engager une planification écologique. Parce qu'il y a à la fois une grande bifurcation à faire sur le plan de la méthode, mais dans un temps limité. Par conséquent, par exemple, s'agissant du climat, moi je ne crois pas simplement à la vertu de l'individu. Alors, je crois qu'il faut effectivement les comportements individuels, mais il faut aussi effectivement de grandes trajectoires politiques. Il faut faire, la transition du modèle énergétique. Il faut faire la transition agricole. Il y a plein de choses passionnantes à faire. Lever ce pays pour faire autre chose que la bouillie libérale qui met tout le monde dans le mur. Alors, comme on voit aujourd'hui.
Du global au local, comme dit Michael. À Lille, Martine Aubry est candidate à un 4e mandat. Vous-même, vous avez choisi de ne pas aller à ce combat des municipales. Pour quelle raison? Vous avez peur de ce scrutin?
Oh non, pas du tout. Non. D'ailleurs, moi, franchement, la bataille électorale en tant que telle, c'est plutôt stimulant. C'est pas le sujet. Non, j'ai pris cette décision pour la raison que, dans le moment que nous vivons, il y a un fort divorce entre les représentés et les représentants. Une forte défiance pour la politique. Et moi, je veux contribuer à faire la démonstration avec mes amis que la politique, c'est l'affaire de tous. Et que donc, eh bien, on peut éviter d'être candidat classique à toutes les élections. Vous savez, moi, je n'oublie pas que quand j'étais conseiller clientèle en campagne, j'ai été élu à quelques dizaines de voix près. Et j'ai dit que je serais consacré intégralement mon mandat. Avec les députés de la France Insoumise, nous faisons partie des 150 députés les plus actifs de l'Assemblée nationale. Donc on tient parole là-dessus. Et moi, je pense que c'est plutôt une belle démonstration que de dire, bah, précisément, je serai jusqu'à son terme consacré pleinement à mon mandat dans une période de défiance. Et par ailleurs, vous savez, il y a plein de gens talentueux. À Lille, nous avons un beau collectif décidé pour Lille, notamment emmené par mon ami Julien Poix et Élodie Chloé. Et je crois qu'ils sont tout à fait capables d'atteindre l'objectif de faire en sorte que les Lilloises et les Lillois deviennent des décideurs eux aussi. Il faut ouvrir en fait le jeu et considérer que pour faire reculer l'abstention, ce qui est aussi un défi considérable, eh bien il faut être un outil au service de la mobilisation. C'est plus important que d'être soi-même candidat à toutes les élections.
Ça montre aussi que vous n'êtes pas en situation de pouvoir prendre une ville en ce moment. Cécile,
pourquoi vous dites ça?
Parce que justement, vous n'êtes pas en ce moment engagé dans les municipales. Vous
si,
pas...
si, si, nous le sommes. La France Insoumise n'aura pas de liste en son nom propre,
voilà,
parce qu'elle fait le choix dans la période d'être utile à l'implication des citoyens eux-mêmes. Avec, mais vous savez, ce n'est pas juste de la communication, je ne prends qu'un exemple.
Non, non,
par exemple, on crée les conditions qu'il y ait des conseils municipaux avant l'heure qui créent les délibérations municipales avec les citoyens. Faire la démonstration que les gens sont capables, que la technique doit être soumise à la politique et non pas l'inverse. Que, par exemple, à Lille, vous savez, souvent Martine Aubry parle de la bonne gestion. Oui. Mais la bonne gestion, en fait, elle a remplacé depuis longtemps l'idéal qu'on a en droit d'attendre d'une ville de gauche, par exemple. Refaire de la politique avec les citoyens et faire la démonstration que la politique est bien l'affaire de tous. Voilà le cœur de l'affaire pour les municipales.
Comme
la politique, c'est de l'incarnation aussi. Jean-Luc Mélenchon sera-t-il votre candidat pour 2022?
Je pense que la meilleure chose que vous ayez à faire pour le vérifier, c'est de l'interroger lui, puisque
non,
la décision
lui appartient. Non, je vous demande
votre candidat. Vous me demandez mon avis. Oui, moi, mon avis... c'est qu'il est le meilleur candidat. Mon souhait le plus cher, c'est qu'il soit candidat à nouveau en 2022, parce que je considère que dans cette pagaille croissante et ce délitement de l'État républicain qu'il y a en cours, et face aux grands objectifs qu'il faut fixer, notamment s'agissant de la planification écologique, le fait qu'on ne retrouvera pas de consentement dans notre pays sans en passer par l'étape d'une constituante où le peuple redéfinit la règle du jeu, je crois qu'il est le mieux capable...
Vous disiez qu'il fallait donner ses chances à d'autres.
Bien sûr, mais je crois qu'il est...
Il y a Clémentine Autain, il y a beaucoup de...
Je crois que très sérieusement, il est le plus capable d'incarner cela. Voilà.
Mais vous
je me souviens d'une interview qu'avait donnée Jean-Luc Mélenchon dans un journal que j'ai gardé, où il disait pendant l'élection présidentielle, je suis le vote stable et sûr. Et ben, je crois que Jean-Luc Mélenchon est tout à fait capable de cela, et que c'est notamment ça qu'il va falloir incarner en 2022 dans une espèce de pagaille généralisée et d'un duel dont les Français ne veulent plus entre Macron et Le Pen. Alors, donc tu vois bien que c'est bonnet blanc et blanc bonnet.
Adrien Quatennens, je me souviens moi aussi d'une interview dans Le Point, je l'ai mise de côté, c'était la vôtre, un portrait où vous disiez, mais si effectivement, si la situation s'y prête, s'il n'y a pas de possibilité avec Jean-Luc Mélenchon, eh bien je suis prêt à être candidat à l'élection présidentielle.
Il n'a jamais fait de déclaration de candidature à la présidentielle dans aucun journal, Michael Darmon.
Vous en avez parlé dans Le Point en disant je suis prêt à y aller, c'était un, entre guillemets,
non,
c'était
ce pas... Ce que j'ai pu dire, effectivement, c'est que Jean-Luc Mélenchon, notamment par son travail, a contribué à ce que d'autres personnalités autour de lui émergent. Souvenez-vous que pendant la campagne de 2017, on faisait souvent le reproche à Jean-Luc Mélenchon, malgré une très belle campagne et novatrice, d'être l'homme seul. Vous vous souvenez, on a beaucoup de titres de presse sur Mélenchon, l'homme seul.
Mais
je crois qu'aujourd'hui,
deux ans
et demi après, on ne peut plus dire ça. Jean-Luc Mélenchon, il a autour de lui, effectivement, des personnalités que vous avez citées, des femmes, des hommes.
Et qui peuvent lui dire parfois au revoir, merci,
bah,
respect,
je sais pas qui, vous en connaissez.
Ben,
vous en connaissez
les murmurés, les François Ruffin, les Clémentine
Autain. Vous savez, François Ruffin, il a son rendez-vous hebdomadaire avec Jean-Luc Mélenchon pour discuter ensemble de stratégie politique, comme beaucoup d'entre nous. Il a la réunion de groupe comme tous les autres. Non, je crois que Jean-Luc Mélenchon, c'est celui qui a amené nos idées le plus près de la porte du pouvoir. Et je crois que s'il en a l'énergie, et à mon avis c'est le cas, eh bien il est le mieux placé pour le faire encore. Après, s'il s'agit de penser le temps long, eh bien évidemment qu'il est à peu près clair qu'après lui, il y aura d'autres possibilités. Mais moi, je pense que c'est encore son heure. Vous savez, récemment, Jean-Luc Mélenchon avait dit à des journalistes, vous pensiez que vous seriez débarrassé de notre courant de pensée après moi, mais avec les femmes et les hommes qui ont émergé autour de moi, non, vous en prenez encore pour 60 ans. Je vous confirme, il a raison.
Et vous, vous dites, je vais essayer de crédibiliser le mouvement avant de penser peut-être à l'après 2022. J'ai une phrase de vous, vous dites, j'incarne une crédibilité dans un mouvement qui évoque des gauchistes échevelés. C'est quoi la mission que vous fixez?
Là, clairement, je vous me défie de retrouver les propos. Je n'ai jamais prononcé ce verbatim-là, ce n'est pas possible.
Dans le point.
Non, on va reprendre l'interview du point. Parce que...
Absolument.
Non, ce que je dis, c'est que le groupe de la France Insoumise et ses élus, puisque maintenant il y a aussi le groupe parlementaire, participent de cette démonstration. Oui, nous sommes une force d'opposition, mais nous sommes aussi une force de proposition. Il faut aller voir un peu le travail parlementaire qui est fait, beaucoup de gens le regardent. Il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on ne peut pas considérer qu'on serait uniquement dans l'incantation, dans la contestation pour la contestation. Nous avons le souci d'incarner un débouché politique. Alors oui, c'est un pas de côté. Ce que nous propose est assez radical, mais je pense que c'est tout à fait adapté à la situation. La question, c'est compte tenu de ce que nous avons sous les yeux, de la situation du pays et du monde, est-ce que nos solutions aujourd'hui ne sont pas finalement les plus raisonnables ? Moi, je pense que si. Je crois que le programme de la France insoumise est tout à fait raisonnable dans la période et qu'à côté, ce que déploie Emmanuel Macron, notamment s'agissant du climat ou de l'économie, on voit aussi la situation du chômage, est tout à fait déraisonnable. Voilà. Donc je crois que notre travail parlementaire concourt à montrer cette crédibilité. Oui, s'il fallait gouverner le pays autrement pour changer la vie, nous y serions prêts. Et je vous dis même à votre antenne ce midi, nous n'y avons pas renoncé.
Merci, c'était le grand rendez-vous d'Adrien Quatennens. Vous pouvez dès à présent retrouver donc l'émission sur le site europe1.fr. À dimanche prochain, bonne semaine à tous.
Merci à vous.
Merci beaucoup Mickaël Darmon, à dimanche prochain donc. Même endroit, même heure sur Europe 1. Restez avec nous à suivre votre balade hebdomadaire dans les rues de Paris. Vous attend, vous serez en balade avec Frédéric Taddeï comme chaque dimanche. Bonjour Frédéric, qui vous accompagne aujourd'hui ?
Bonjour Géraldine, celui qui nous emmène en balade aujourd'hui n'aime pas beaucoup les villes, il préfère la mer. C'est Olivier de Kersauzon, attention, ça va tanguer.
A tout de suite Frédéric, juste après les infos sur Europe 1.